écoutez Radio Campus Tour, bienvenue dans l'émission Sortez, quotidienne socio-culturelle. Nathanaël s'octroie un peu de repos, alors aujourd'hui c'est moi, c'est Mélissa qui vous parle des Riot Girls. Avec moi et par téléphone depuis le sud-ouest, Manon Labrie, auteur de Riot Girls, chronique d'une révolution punk féministe parue en avril 2016 aux éditions de la Découverte dans la collection Zone. Bonjour Manon.
Bonjour Mélissa.
Bienvenue sur Radio Campus Tour.
Ben merci.
J'espère que je n'ai pas trop écorché le nom de ton livre.
Non, je prononce à peu près de la même manière.
Alors disons d'emblée que tu es docteur en civilisation nord-américaine depuis 2011, je crois.
C'est ça.
Et il se trouve que parmi tes rapporteurs, tu avais monsieur Georges-Claude Guibert, qui est connu à Tours, hein, puisqu'il enseigne à l'université François Rabhi.
Oui.
Puis, après cette thèse, tu as aussi publié en 2016 un essai, hein, dont on vient donner brillamment le titre. Et cet essai, donc, il est à la première personne, il est écrit dans un style dynamique, drôle et aussi tout à fait personnel. Alors, comment tu as choisi ce sujet? Comment tu as mené ton enquête? Et puis aussi, bah, bien sûr, comment cet essai vient poursuivre ta thèse et pourquoi tu as choisi cette forme, hein, qui semble d'ailleurs plus en adéquation peut-être avec ton sujet.
Oui, alors bon, c'est sûr qu'une thèse peut-être un petit peu, enfin voilà, plus austère que en effet l'essai qui est paru à la Découverte. Alors le choix du sujet, ben, ça a été un sujet passion. Hein. Je suis tombée un petit peu dedans quand... Il se trouve que je faisais des études en anglais, j'ai reçu mes premières leçons de féminisme et en même temps je suis tombée sur cette musique qui était très nouvelle pour moi. Donc j'ai découvert assez tardivement ce punk féministe et puis ben, du coup j'ai fait un petit peu le mélange de tout ça et je me suis dit que c'était parfait pour continuer des études. Et pour du coup me pencher là-dessus dans le cadre d'une thèse. Donc vraiment c'était un sujet passion quoi. Et puis j'ai un petit peu laissé tout ça, et puis un beau jour, on m'a suggéré de publier tout ça. Donc je me suis lancée dans la re-rédaction. Et puis donc ça aboutit à un texte qui, je ne sais pas si tu le sais, est sorti en juin aux éditions X, Riot Girls.
Tout à fait.
Voilà. Mmh. Et puis en parallèle, finalement, je me suis relancée dans une autre rédaction, comme tu le disais, ouais, peut-être avec un style qui colle davantage, en tout cas, qui reflète plus ma passion que ce n'était possible dans le cadre d'un texte plus académique, on va dire.
Et alors comment on fait, parce que j'imagine qu'il y a évidemment, comme sur tous les travaux universitaires, un énorme travail de recherche. Comment tu as travaillé, toi, sur ces...
J'ai oublié ton nom de la question.
Non, aucun souci. Sur ces Riot Girls, est-ce que tu t'es rendue, en fait... aux États-Unis, comment tu as cherché des archives, sachant qu'il y en a quand même assez peu, je pense.
C'est vrai qu'il y en avait peu au moment où j'ai commencé. Les choses sont en train de changer, je vais y revenir. J'ai commencé, en effet, c'était mon objectif de me rendre là-bas et de faire des entretiens avec les premières intéressées, mais ça s'est avéré assez compliqué, alors pour plusieurs raisons. D'abord, c'était très onéreux. Ensuite, c'était pas forcément des gens faciles à localiser, ni parfois à identifier d'ailleurs. Du coup, j'ai assez rapidement laissé tomber cette idée. Et alors, l'autre raison, c'est que c'est pas forcément, en tout cas à l'époque, des gens qui étaient très enclins à raconter leur vie pour un travail universitaire. Enfin voilà, je préférais donner mon point de vue que carrément les questionner, quoi, qui est contestable hein, comme démarche. Du coup, je me suis appuyée sur des entretiens qu'elles avaient déjà donnés, sur des fanzines, sur des sources primaires telles que donc les fanzines et les paroles, les chansons, enfin ce genre de choses. Également sur quelques travaux qui commençaient à sortir sur le sujet. Donc après, pour le bouquin qui est sorti l'année dernière, enfin il y a deux ans maintenant, j'ai pu bénéficier du fonds qui s'est créé depuis à New York, fonds d'archives, pardon, qui du coup regroupe des dons qu'ont fait les protagonistes des tout premiers réseaux. C'est assez colossal. Elles ont conservé beaucoup de choses et elles ont vraiment tout donné. Hein. Ça va du petit flyer à l'autocollant en passant par les notes. Écrite sur un coin de table en buvant le café du matin. Ça va aussi du journal intime aux coupures de journaux de l'époque. Donc c'est assez riche. Ça m'a permis de sortir un peu des histoires qui avaient déjà été racontées aussi, d'essayer de trouver d'autres choses qui n'avaient pas été dites auparavant. Je crois qu'il a été fondé en 2012, ce fonds d'archives. Il y en a d'autres qui ont suivi, qui ne sont pas exclusivement consacrés aux Riot Girls, mais dans lequel on trouve pas mal de matériaux aussi. Du coup, voilà, donc le fait qu'elles aient conservé beaucoup de matériaux va pouvoir aussi, je pense, permettre de continuer à raconter l'histoire, qui je trouve est une histoire importante du mouvement féministe.
En tout cas, si elles ont conservé toutes ces choses, tous ces objets, c'est que quelque part, peut-être qu'elles savaient déjà que ça allait faire histoire, qu'à un moment ou à un autre, ça serait sujet d'étude.
Alors peut-être, en tout cas, elles avaient bien conscience du fait que l'histoire oublie des choses de manière plus ou moins volontaire, et que si elles ne s'efforçaient pas de conserver ce qu'elles avaient produit, alors que ça devienne important ou pas, c'est pas quelqu'un d'autre qui allait le faire pour elles. Donc vraiment, cette nécessité d'archivage, effectivement, elles en avaient bien conscience. D'autant plus qu'elles essayaient de ressortir du tiroir des noms qui avaient été un peu oubliés de punk femmes avant elles, ou des noms qui avaient été un peu ensevelis sous une masse de noms masculins. Du coup, voilà, je pense qu'elles ont tout gardé aussi pour que dans le futur ce soit plus facile, si cela faisait histoire, que ce soit raconté. Quoi.
Eh bien, je te propose de faire tout de suite une première pause musicale et d'écouter justement les Bikini Kill Rebel Girl.
Avec plaisir.
Voilà, c'était les Bikini Kill. Alors, qu'est-ce que tu aimerais nous dire sur ce groupe de filles ?
Et pas que, non, il y avait un garçon dedans.
C'est vrai, il y avait un garçon.
Karen. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire sur ce groupe ? Alors, c'est celui qui est considéré comme, qui en tout cas est peut-être le plus connu d'entre tous. Oui, alors c'est quand même relatif, hein, en tout cas, ça commence à faire partie, voilà, de... C'était connu avant, mais plus ça va et plus ça l'est. C'est un des groupes qui a l'origine un petit peu de tout ce qui s'est passé à partir de 1991. Ce sont eux qui ont mis en place avec d'autres, avec Bratmobile notamment. Ça a été vraiment les deux premiers groupes voilà, à essayer de développer des stratégies, à commencer à réseauter, à faire de la propagande intensive pendant leur tournée pour essayer de constituer un réseau donc, qui va devenir le courant Riot Girl. C'est un groupe extrêmement politique dès le départ, qui se veut donc féministe et anticapitaliste, qui a commencé modestement avec, enfin voilà, avec une, un ancrage dans la culture do-it-yourself très fort. Et c'est donc celui qui a eu le plus de succès, même si voilà, c'est que ça, pendant longtemps c'est resté un succès relatif, disons que c'est jamais vraiment devenu un groupe mainstream. Et de toute façon, il y a un côté, voilà, il y a un côté assez violent, parfois difficile d'écoute, notamment sur le premier album. Donc ça pouvait pas non plus passer sur les ondes FM. Ça aurait été surprenant. C'est un groupe qui a duré jusqu'à à peu près 1996 et qui a vraiment été celui qui a été le plus médiatisé. Pas forcément des termes très agréables d'ailleurs.
Voilà, et peut-être aussi remettre ce groupe dans le contexte, hein, puisque c'est donc les Riot Girls, il me semble, c'est un mouvement musical et féministe, hein, comme tu l'as très bien dit, donc nord-américain. Et qui se concentre peut-être, tu vas pouvoir me dire si je me trompe, entre 90 et 95. Alors pourquoi à ce moment-là et pourquoi la scène punk? Pourquoi c'est arrivé là en fait?
Alors d'abord, mais on y reviendra peut-être, c'est à moitié vrai de dire que ça s'est passé en 95. Ça a peut-être changé de forme, en tout cas ça n'a pas disparu. Alors pourquoi dans le milieu punk? Disons que à l'époque c'est un terreau... Alors que le punk, c'est, je dirais, le milieu underground du Pacifique Northwest, comme ils disent, c'est-à-dire le nord-ouest des États-Unis, la zone qui va de Seattle à Portland, en passant donc par Olympia, qui a été la ville où les premières étincelles Riot Girls ont surgi. Et donc cette zone, à ce moment-là, c'est un vivier musical très très actif. C'est les tout débuts du grunge, mais plus que quelque chose de défini, le grunge c'est encore voilà, des expérimentations, ça part un peu dans plusieurs directions musicalement. Et donc dans cette petite ville d'Olympia, un certain nombre de jeunes femmes qui fréquentent cette scène underground, qui fait vraiment partie de l'identité d'Olympia, hein, c'est vraiment... La culture musicale fait vraiment partie du paysage à Olympia. Et donc ces jeunes femmes, elles se retrouvent, elles finissent par s'identifier et se retrouver, notamment par le biais de fanzines, et de se rendre compte que ce qu'elles ressentent dans cette scène underground, alors pas uniquement à Olympia, et d'ailleurs sans doute moins à Olympia qu'ailleurs, mais à Seattle et ou ailleurs, c'est finalement moins... Ce sentiment d'aliénation, il est moins individuel que collectif. C'est-à-dire, à nouveau, c'est l'histoire du privé et du politique qui permet de se rendre compte qu'en fait, ce qu'on vit individuellement, finalement, il est partagé par plusieurs et c'est un problème politique. Et donc, c'est ce dont elles se rendent compte, pardon, à travers donc, ces fanzines. Et puis, elles finissent par donc, s'identifier et puis décident d'agir. Devant une scène musicale qui, bien qu'à la base ait eu des grandes idées d'horizontalité, eh ben, finalement se retrouve à nouveau cadenassée et hiérarchisée. Et donc, parmi les hiérarchies, on trouve la hiérarchie homme-femme. Et donc voilà, donc elle décide de s'agréger pour essayer de lutter contre le sexisme dans la scène underground, mais bon, c'est aussi le sexisme dans la société en général, bien évidemment. Et donc c'est comme ça qu'elles vont commencer à se réunir, à mener des actions et surtout à vocaliser, pour faire un anglicisme, toute cette expérience, toute cette aliénation dans le domaine musical, mais de manière plus large aussi, des violences... des violences quotidiennes sexistes dans la société américaine du début des années 90.
Voilà, merci Manon. Je te propose une seconde pause musicale et d'écouter les L7, The Masses Are Assises, avec mon très bon accent anglais. Et voilà, nous écoutions les L7 Massisa Assise. Allô Manon, est-ce que tu es toujours là ?
Je suis toujours là.
Et alors, pareillement, qu'est-ce que tu aimerais dire de ce groupe ?
Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire de ce groupe ? C'est un groupe qui est né un petit peu avant le courant Riot Girls. Il a commencé, je pense, vers 85, si je m'abuse, en plus du fait que c'est un excellent groupe, hein, et c'est dit de manière complètement objective. C'est aussi un des groupes qui a bien donné un bon coup de pied dans la fourmilière, dans un peu voler en éclat les codes, à cette époque-là en tout cas. Voilà, c'est un quatuor entièrement féminin. Voilà, qui se sont amusés un petit peu avec les dictats de la beauté, etc., qui volontiers se peignaient des dents noires, qui abordaient aussi des sujets dans leurs chansons qui avaient rarement été traités jusqu'ici, ou alors de manière beaucoup plus, enfin voilà, des groupes beaucoup plus confidentiels. Donc elles étaient quand même assez, elles sont devenues assez mainstream. Et dans leurs paroles, il s'agissait de plaisir au féminin, de menstru, de masturbation. C'était des sujets qui jusqu'ici étaient peu abordés. Et elles ont fait partie des modèles donc qui ont aussi incité les Riot Girls à mener leur combat, puisque voilà, ça a été parmi, avec d'autres groupes comme Babies in Toyland à la même époque, ou comme les Lunatics, ou même comme All, sont des groupes qui ont fait se dire aux Riot Girls que leur démarche, elle était vraiment valide, que voilà, c'était des modèles qui les ont un petit peu galvanisés, et qui ont directement, là, ces 4-5 premiers groupes qui ont été actifs quelques années plus tôt, ils ont préparé le terrain aussi pour les Riot Girls.
Et alors, ce qui est extrêmement intéressant et plaisant d'ailleurs quand on lit ton livre, c'est qu'on se dit « Ah, voilà, un féminisme de terrain ». Voilà, puisqu'on on peut lire par exemple, hein, tu cites les Bratmobiles, hein, qui sont bien décidés à faire triompher les Binoclars 2, Ringard 2. Voilà, « Dare to be a square », voilà, le vrai cool, c'est le non-cool. Et voilà, et toutes ces filles qui croyaient qu'elles étaient des freaks mentalisent progressivement que la seule chose freaky, c'est la manière dont elles ont été socialisées.
Ben oui, c'est important. Non, mais oui, effectivement, c'est un féminisme de terrain, et c'est, ouais, cette lutte contre la coolitude, voilà, elle fait partie de leur anticapitalisme féroce aussi, c'est-à-dire que le capitalisme est envisagé comme la source de toutes les hiérarchies, le cool étant bien sûr une de ces formes de hiérarchie, quoi. Je suis plus cool que toi, c'est déjà quelque chose qui est au-dessus d'autres choses. Et donc voilà, elles se sont battues contre tous les standards et pour toutes les, en effet, les jeunes femmes qui croyaient que toutes seules dans leur coin, c'était elles qui avaient un problème. Alors que voilà, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le privé et politique, quoi.
Et puis même aussi, il y a aussi l'idée d'induire chez ces jeunes femmes qui ne sont pas forcément musiciennes, d'ailleurs j'imagine que bah, moi aussi je peux le faire. Hein, que...
C'est le nœud de leur démarche, enfin, en tout cas c'est la manière dont elles conçoivent la révolution, c'est-à-dire que voilà, elles ont un slogan qui c'est « Revolution Girls Time Now », la révolution à la manière des filles maintenant, et cette révolution qu'elles prônent, c'est moins l'image, enfin c'est moins la révolution telle qu'on en a l'image, quoi, c'est-à-dire un renversement violent de perspectives et de pouvoir. C'est en fait l'addition de révolutions individuelles. Et ces révolutions individuelles, elles sont signalées par des prises de parole. Voilà, chaque jeune femme qui se lance dans la production culturelle ou dans qui donne de la voix, eh bien, ça signifie qu'elle a effectué ou qu'elle est en train d'effectuer une révolution individuelle. Et c'est la somme de toutes ces révolutions individuelles qui constitue la révolution à la manière des filles maintenant. C'est-à-dire que c'est une révolution patiente et qui compte sur tout le monde.
Oui, il y a aussi peut-être une idée de faire communauté, hein, de soutien.
Complètement. Alors, elles appellent ça « girl love », c'est-à-dire voilà, l'encouragement, substituer en fait au rapport de jalousie, de défiance mutuelle, une espèce de confiance aimante entre les jeunes femmes. Donc oui, en ça, c'est vraiment une incitation à former une communauté. Oui.
Ce que tu rappelles aussi, là, hein, c'est dans ton livre, c'est que du 20 au 25 août 91, à Olympia, s'est tenu, alors attention l'accent, l'International Pop Underground Convention, voilà, avec la soirée d'ouverture Love Rock Revolution Girl, Style Now, pardon, j'en oublie un bout. Et que cette scène ouverte, elle accueillait aussi des groupes donc majoritairement féminins, et qu'en fait, tout le monde pouvait jouer, si j'ai bien compris.
C'est ça. Bon, il faut savoir que voilà, l'esprit DIY à Olympia, il est vraiment très, très présent. C'est-à-dire que dans cette scène underground assez aventureuse, ce qui est encouragé, c'est non pas le produit fini, mais le processus. On peut jouer sans avoir jamais joué avant, on peut chanter sans avoir jamais chanté avant. Il y a cette espèce de dynamique qui encourage la prise de parole de manière générale à Olympia. C'est d'ailleurs ça qui va leur servir beaucoup aussi. Et donc cette première nuit de l'IPUC, c'est en effet consacrée aux femmes sont encouragées à venir se produire alors pour une ou trois chansons, je crois que c'est trois maxi, quiconque le souhaite en fait, et ce sans avoir besoin d'être expérimenté, quoi. Et ça va être un sacré catalyseur parce que on va se rendre compte que la demande est vraiment beaucoup là. Ça va galvaniser les foules parce que, en effet, on se rend compte que l'absence de groupe féminin, elle est cruelle, que la demande, elle est là, qu'il y a plein de jeunes femmes en manque de représentation, en manque de modèles. Et donc, de voir aussi des gens qui se lancent, s'enfiler, ça va permettre à plein de jeunes femmes de se dire, effectivement, moi aussi je peux, et même si je connaissais le DIY avant, maintenant je vois que ça peut s'appliquer à moi aussi.
Eh bien oui, cette idée de toi aussi tu peux le faire, tu peux agir, tu peux changer les choses, qui que tu sois, et je crois que, en fait, par exemple, Kathleen Anna a reçu des témoignages vraiment de reconnaissance et d'amour de la part de nombreuses jeunes femmes. Ils l'ont remercié d'oser dire sur scène toutes ces choses qui leur pesaient et qu'elles-mêmes n'auraient jamais cru être capables de dire, de faire entendre.
Mmh. C'est vrai. Et pendant toute l'existence de Bikini Kill, elle va vraiment se la donner. après les concerts, elle raconte qu'elle a énormément dialogué avec des gens qui venaient la remercier ou partager leur histoire. Ça a été autant qu'une artiste, quelqu'un qui a fait du travail de terrain, hein, pour le coup. Mais ça n'a pas été la seule, hein, bien sûr. Je pense que c'était toutes les premières figures, là, notamment des trois premiers groupes américains, qui sont Bikini Kill, les Brad Mobile que j'ai cités, mais aussi Evans to Betsy, elles vont jouer ce rôle aussi de guide, c'est un peu risqué comme mot. Elles ont défriché un chemin et elles ont beaucoup, beaucoup aidé à ce que la parole se libère, et notamment en écoutant. D'ailleurs, elle raconte que c'était pas forcément une sinécure non plus, quoi.
Ben oui, et qu'elle finisse épuisée. Hein. Je crois qu'il y a un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça sur Kathleen Anna, sauf si je me trompe, et elle dit ça dans le film, qu'elle en est sortie, mais épuisée, en fait.
Ouais, c'est ça. Beaucoup de... Entre ça et la pression médiatique, c'était pas un groupe anodin, quoi.
Bien, je te propose d'écouter, alors, non pas une Riot Girls, encore que peut-être... Écoutez, Anne Aurel, peut-être que tu connais cette artiste qui se définit elle-même comme social media artiste. Et,
je ne la connais pas.
Eh bien, alors voilà, c'est une chanson sur l'art comptant pour rien.
Parce que le monde il est ghetto, je prends du papier recyclé. Parce que moi je suis écolo, je prends en photo mon vomi, j'enregistre. aubergiste, mes gargouillis. J'ai ma carte pour Beaubourg. Je fais des workshops à Cherbourg. Je mate le monde au microscope. Je me cultive, je lis Pariscope. Je garde le sang de mes ragnagnas. Je reproduis tous les deux gars. Je bois de l'accro, je fume des pétards. J'ai moi rôle et Big Viola. Je suis constamment en retard. Je suis étudiant aux Beaux-Arts. Moi je kiffe l'art contemporain. Je suis bizarre et je suis content pour rien. Moi je kiffe l'art contemporain. Je suis un crevard et je fais du bruit pour rien. Moi je kiffe l'art contemporain. Je suis ignare et je suis connard mondain. J'ai lu Deleuze, j'ai vu Godard. J'aime les baigneuses, c'est beau Renoir. J'ai lu Gombry, j'ai vu Romer. Je pleure ma race, devant Turner. Féministe et femme artiste, je suis sensible et perfectible. J'ai un faible pour les cubistes, j'ai l'ego métapénible. Mes pensées sont surgelées, je sors l'argent dans mes trous de nez. Je mets mon caca en conserve, je suis génial, c'est sans réserve. Cultivé, je vais au musée, je suis futé, je m'attarde. Je dis regardeur, pas spectateur, à la FIAC sans être acheteur. J'ai un iPhone, un MacBook, je vais au McVal, je soigne mon look. Mon bacon s'appelle Francis et mon chat s'appelle Matisse. Je kiffe l'art contemporain. Je suis bizarre et je suis content pour rien. Moi je kiffe l'art contemporain. Je suis un crevard et je fais du bruit pour rien. Moi je kiffe l'art contemporain. Je suis ignare et je suis connard mondain. Champagne et des petits fours, vin de campagne et calembour. Vernissage chez Perrotin, y'a des cubis, des pots de vin. Y'a des critiques et mes potes, l'accrochage est polyglotte. Plasticien polyvalent, parce que moi j'ai trop de talent. J'crée du lien entre les choses, je performe à l'héléros. J'ai exposé à Versailles, mes sculptures faites de goose d'ail. J'ai craché dans ton white cube, l'in-situ à l'état pur. J'finirai par faire de la pub et du graphisme pour voiture. Je kiffe l'art contemporain. Je suis bizarre et je suis content pour rien. Moi je kiffe l'art contemporain. Je suis un crevard et je fais du bruit pour rien. Moi je kiffe l'art contemporain. Je suis ignare et je suis connard mondain.
Connard mondain.
Alors voilà un morceau de bravoure de Anne Aurel, art content pour rien. Donc voilà, c'est une chanson très méchante qui s'en prend. Disons au cool, quoi.
C'est le moment où on va se faire des ennemis, c'est ça?
Faut savoir.
Allez, faut vivre dangereusement.
Ouais, c'est ça, faut vivre dangereusement. Donc je sais pas, est-ce que ça fait un écho à ce que dénonce quelque part aussi ces Riot Girls, l'idée de la coolitude?
Bah oui, oui, bon, j'emploie la formule en plus. Oui, après c'est pas si frontal, disons que c'est pas leur premier cheval de bataille, même si effectivement elles dénoncent, comme on le disait tout à l'heure, toutes les formes de coolitude et qu'elles font l'apologie des frics en tout genre. Oui, 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 après, c'est... Bon, voilà, c'est... Ben, je ne connaissais pas ce... Comment tu dis qu'elle s'appelle ?
Anne Aurel.
Ben, je ne sais pas si elle revendique l'héritage, mais en tout cas, oui, bien sûr, il y a voilà, la dénonciation de coolitude contemporaine.
Et alors justement, pour en revenir à ton travail quand même, au-delà de Anne Aurel, dans un article tout à fait passionnant que tu as mis en ligne, enfin qui est en ligne du moins sur Cairn, qui s'appelle Riot Girls américaines et réseau féministe underground français, tu parles justement de féminisme des interstices qui revient voilà, dans les recoins oubliés, disons, des idées dominantes. Le fameux balance ton porc du moment, enfin qui a lieu en ce moment sur les réseaux sociaux, est-ce qu'à ton avis c'est une nouvelle, une transformation, une réapparition de cet élan féministe, ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir?
Alors avec les Riot Girls, pas grand-chose je pense, mais en effet on peut le voir comme disons l'expression, un élan féministe qui est logé là où on ne l'attendait pas forcément. Personnellement, le MeToo m'intéresse davantage que le balance ton porc. Mais alors après, voilà, je vois pas de lien direct du tout entre, excepté évidemment le côté féministe, mais entre cette culture Riot et ce mot dièse, comme on dit. Ce dont je parle, le féminisme interstitiel, c'est plutôt dans le sens où on s'organise à l'écart justement de du mainstream et des longues vues des médias. C'est le moment où on s'organise pour construire dans des espaces qui ont été un petit peu négligés, quoi. C'est pas exactement la même démarche, du coup. C'est plutôt construire quelque chose de durable dans des espaces qu'on s'approprie, du coup, pour ensuite éventuellement faire que ça pénètre la culture populaire mainstream de manière plus visible. Mais avant tout, se ménager des espaces à soi et construire des stratégies, bien sûr, pour faire évoluer les choses à long terme, mais d'abord pour se créer une culture aussi.
D'ailleurs, dans cet article aussi, tu rappelles, hein, même dans le livre sur les Riot Girls, le rôle de SAP, en fait, qui a été fait par les médias. Voilà.
Oui, tout à fait. Enfin, SAP plus ou moins volontaire, d'ailleurs. C'est ni noir ni blanc, bien sûr. On peut pas dire non plus. Enfin, les médias ont aussi aidé à propager le mot. Mais c'est vrai que pour ce qui a été des groupes les plus exposés, les premiers, les trois que j'ai cités notamment, plus un quatrième en Angleterre, Libir. Et pour les premiers réseaux, de manière générale, ça a été lourd parce que leur démarche a été le plus souvent exposée assez trivialement. En tout cas, on escamotait de manière plus ou moins volontaire l'aspect radical, féministe, anticapitaliste de la chose pour juste réduire le courant à quelque chose d'affriolant. Et voilà, des jeunes femmes qui crient, souvent elles ont été ridiculisées et on oubliait vraiment de mentionner que tout ce qu'elles faisaient, c'était légitime, c'était construit, c'était très politique, pour juste dire que non seulement elles ne savaient pas jouer, mais qu'en plus c'est bon, quoi, ça va, on le savait, que de toute façon, grâce au féminisme, tout le monde était sur un pied d'égalité. Voilà, donc oui, en effet, ça a sapé les énergies parce qu'il y a eu du coup une espèce de défiance qui a fait qu'elles se sont détournées de leur but premier et de leur premier élan pour se concentrer sur la représentation que donnaient de leur courant les médias. Ça a fini par entamer les énergies, en effet.
Et alors, en fait, là où je reviens avec un peu de lourdeur à mes mots dièse, c'est que finalement, comme disons, cette prise de parole-là est d'emblée exposée sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on ne peut pas justement craindre que ça fasse un peu feu de paille, un peu soufflé au fromage, et que ça retombe aussi vite que c'est venu, justement, parce que
c'est un risque. En effet, bon, alors après, il y a des manifs là, qui se sont organisés, du coup, on peut dire qu'on met un pied davantage dans le réel et peut-être dans quelque chose qui va évoluer et donner quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais oui, effectivement, il y a le risque du feu de paille, c'est sûr. Mais tout de même, bon, ça aura au moins... pendant un court instant, fait bouger quelques lignes. Il faut espérer que ça donne d'autres choses dans des domaines plus concrets, quoi.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelques autres initiatives, quelques autres groupes, peut-être en Europe ou ailleurs, pas forcément musicaux, voilà, qui, à ton avis, se rapprochent dans l'idée des Riot Girls?
Alors oui, ça, c'est ce dont je parle davantage dans le deuxième livre là, qui est sorti chez X. Il y a en effet une survivance, des réémergences de cette culture sous d'autres formes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était à moitié vrai de dire que ça s'était essoufflé et que c'était mort en 95. C'est qu'après, en fait, ce courant, il est devenu ce qu'il avait toujours voulu être, c'est-à-dire quelque chose dont les gens s'emparent, qui le réinventent, en fait. Alors moi, ce que je trouve hyper intéressant en ce moment, c'est les Girls Rock Camp, qui sont des sortes de colonies de vacances pour des jeunes filles de 8 à 18 ans, je crois, ou 7 à 17 ans, quelque chose comme ça, au cours desquelles on leur apprend à jouer d'un instrument, elles peuvent venir même si elles n'ont jamais pratiqué, à jouer en groupe, à composer. Ils sont proposés aussi divers ateliers du type autodéfense ou bien des ateliers de culture féministe adaptés à leurs âges. Donc voilà, je trouve ça intéressant de faire la propagande dès le plus jeune âge. Voilà, c'est un exemple de ces réinventions et de ces réinterprétations de la culture Riot Girls. Aujourd'hui encore, il y a encore des choses qui existent et qui se revendiquent clairement de ce mouvement.
Alors Manon, rappelons Manon Labrie que tu es l'auteur de Riot Girls, chronique d'une révolution punk féministe.
Rappelons-le, oui.
Rappelons-le, voilà, qui est paru aux éditions de La Découverte, voilà, en 2016, dans la collection Zone, et que ton autre méfait, c'est Pussy Riot Girls, aux éditions X, collection Racines de X, et on a aussi parlé d'un article qu'on peut lire sur le site du Cairn. Voilà, c'est Riot Girls américaines et réseau féministe underground français. Voilà, merci beaucoup Manon, hein, il est déjà temps de se quitter sur Radio Campus Tour. Alors, cette musique, auditeur, tu la reconnais, c'est celle de l'agenda. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Alors, quelle belle sortie as-tu à nous annoncer ?
Eh bien, beaucoup avec Halloween et la Toussaint. Lundi 30 octobre, ce soir, rencontre avec Léonore de Recondo pour son roman Point Cardinal, édition Sabine Westpizer à la boîte à livres à 19h30. Au bar Le Strapontin, concert de jazz avec un trio guitare, contrebasse et batterie. Demain, mardi 31, Halloween, à l'Escale à Saint-Cyr, à l'occasion du Festival National de Théâtre Amateur. À 14h, la compagnie L'Hippocampe vous présente La Terrasse par Jean-Claude Carrière. Le tarif est à 8€. Mardi, Scary Dub Night à 21h au Pale. C'est organisé par ODG Prod et au programme Artix and the Roots Addict et accompagné également d'un DJ set de ODG Prod. À 14h ce mardi au château d'Azel Rideau, atelier de création de poupées enchantées, c'est sur réservation. Mercredi 1er novembre, jour de la Toussaint, et de 15h à 18h, exposition photo de Pierre Fuentes et les tapisseries de Nicole Cherami à la Galerie du Parc à Jouer les Tours. L'entrée est gratuite. Mercredi à 16h, à la salle Paul Bert, la compagnie Graines de Plume propose un spectacle pour enfants sur le thème d'Halloween. Ça s'appelle Le Sort d'Halloween et c'est à 5€. Et enfin, pour terminer, au péristyle de l'Hôtel de Ville, une exposition gratuite sur la guerre 14-18 à travers les caricatures parues dans la presse.
Eh bien, merci Julie pour cet agenda et on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Retrouvez Nathanaël dès demain.